Rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose, de manière fortuite ou non, sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre.
Mes élèves ont rencontré Camille Lorenz, l'autrice de Filles, dans le cadre du prix littéraire de la région, le 8 mars 2022. Camille Lorenz ne pouvait pas se déplacer, alors cette rencontre s'est faite à distance. Nous avons tout fait pour, comme d'habitude, la rendre chaleureuse et intellectuelle.
Et donc, toutes ces réflexions, comment vous les avez organisées et comment vous avez construit ce livre ?
Ça, c'est effectivement le plus difficile, c'est d'organiser tout cela, que ça n'ait pas l'air d'une démonstration, que ce ne soit pas un roman à thèse. Déjà, je l'ai incarné dans j'ai incarné toutes ces réflexions dans des personnages, ce qui est le propre du roman. En fait, moi, je construis beaucoup mes romans. Avant de commencer à écrire, j'ai besoin, un peu comme un architecte, hein, de faire un plan qui n'est pas un plan détaillé, mais qui est une sorte de structure qui me permette ensuite librement de circuler à l'intérieur. Et là, ce qui m'est venu, ça m'a pris des mois, hein, pour arriver à trouver cette structure. C'était quelque chose de très simple. C'était d'abord parce que je commence souvent par la fin de mes romans, comme dans les romans policiers. J'ai besoin de savoir comment ça finit, hein, avant de commencer à écrire. Hein. C'est assez particulier et très souvent j'écris la fin avant même de commencer. Ça peut être une phrase, ça peut être une page, ça peut être un paragraphe, mais j'ai besoin de savoir où je vais. Et là, en fait, le roman, dans ma tête, je l'ai construit en ayant la première et la dernière phrase. Alors, la première phrase, je savais que ça serait « c'est une fille », puisque c'était l'annonce du sexe de l'enfant au moment de l'accouchement, hein, puisque c'est en 59, donc c'est avant l'échographie. Et donc, on savait le sexe de son enfant que quand il naissait. Et donc, la première phrase, c'est une fille, et la dernière phrase, c'est merveilleux, une fille. Et donc, vous remarquerez que, entre ces deux phrases, la première et la dernière, il y a un adjectif qui est venu s'intercaler. Il y a un adjectif de différence, mais c'est pas n'importe quel adjectif. Donc, on passe de c'est une fille qui est décevante, c'est une phrase décevante, puisque dans le roman, cette petite fille naît dans une famille où on attendait un garçon et on souhaitait un garçon. Et puis la dernière phrase, c'est merveilleux, une fille. Donc je voulais que le roman soit l'évolution, montre l'évolution de la première à la dernière phrase. Comment on est passé d'une phrase décevante à propos d'une fille à une phrase d'éloge et avec un adjectif très fort qui est c'est merveilleux. C'est merveilleux, une fille. C'est merveilleux, une fille, qu'on peut entendre dans les deux sens que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est merveilleux d'être une fille, mais aussi c'est merveilleux d'avoir une fille, puisque c'est la mère et la fille qui dialoguent sur cette question et même un troisième sens qui est c'est merveilleux d'aimer une fille, puisque ce sont les trois sens qui sont présents dans cette dernière phrase à la fin du livre. Et ensuite, j'ai construit le livre en trois parties. Enfin, ensuite, en même temps, en fait, que j'élaborais le plan. Les trois parties, c'est donc trois parties qui commencent toutes par une phrase concernant l'annonce du sexe de l'enfant. C'est une fille, première partie. Deuxième partie, c'est un garçon. Quand on annonce à la narratrice qu'elle va avoir un garçon. Et ensuite, c'est une fille, quand on lui annonce qu'elle va avoir une fille. Donc voilà, ça m'a suffi, disons, à ça a orchestré d'une certaine manière tout le livre, et ensuite j'ai raconté très très librement, enfin globalement ça suit la chronologie de la narratrice, hein, depuis sa propre naissance jusqu'à la naissance de son premier enfant, la naissance de son deuxième enfant et jusqu'à l'épilogue. qui est la discussion avec sa fille. Voilà, donc à partir du moment où le roman ensuite suivait une espèce de chronologie, première partie c'est l'enfance, l'adolescence, la deuxième partie c'est sa vie de femme mariée et de mère, donc de mère d'un enfant qui ne va pas vivre, et ensuite de mère d'une fille qui avec qui elle va évoluer sur sa conception de ce que c'est qu'être une fille. Puisque finalement, ce qui moi me paraissait aussi important dans ce roman, c'est de montrer que la transmission en termes d'idées, de sentiments, de la transmission intellectuelle, même que on peut dire traditionnellement, elle se fait des parents vers les enfants. Les parents transmettent à leurs enfants des idées, des valeurs, des points de vue qui leur sont chers, des valeurs qui sont importantes. Et là, bien sûr, ça se passe, mais ce que transmettent la grand-mère et la mère, c'est quand même une vision du féminin où il faut quand même rester soumise, ne pas faire son intéressante, accepter sa condition de fille, alors que ce que va transmettre la fille de la narratrice à sa mère, en sens inverse, c'est elle qui va lui transmettre quelque chose. Elle lui transmet une idée un peu nouvelle qui est que justement, mais non, être une fille, c'est pas juste accepter une condition subalterne ou inférieure, mais être une fille, c'est merveilleux. Voilà. Et ça, c'était ça aussi pour moi la ligne de vol du roman. C'est comme ça que je l'ai conçu, et quand j'ai eu ça en tête, ensuite, ça a été beaucoup plus facile d'écrire. Après, à l'intérieur des parties, je n'ai pas de plan, j'écris au fil de la plume, mais ça me suffit d'avoir cette espèce d'armature. Et c'est vrai pour tous mes romans précédents.
À propos des événements qui lui arrivent, quand avant même de commencer la lecture, quand Bernard a présenté le livre aux élèves, il oui. a dit que il arrivait beaucoup de choses à cette femme, que ça paraissait oui. Presque pas crédible. Oui. Et moi qui l'avais lu, j'ai répondu non, je trouve ça au contraire. Très crédible, et je trouve que c'est intéressant par rapport à ce que vous avez dit au début, où vous avez dit que vous aviez fait une liste et vous en avez enlevé beaucoup.
Oui, oui, tout à fait.
Alors, comment est-ce que... Oui, enfin, voilà.
Et oui, mais ça, c'est vraiment une question intéressante parce que j'ai reçu beaucoup de courriers, et puis j'ai vu sur les réseaux sociaux que des lecteurs, lectrices, même qui avaient apprécié le livre, quand il y avait une réserve, c'était souvent là-dessus, c'était « Ah, mais quand même, vous avez un peu chargé la barque, voilà, c'est une caricature de tout ce qui peut arriver à une femme, c'est vraiment une caricature, il y en a trop. » Et bon, c'est sûr que ça me fait beaucoup de peine d'entendre ça, parce que en effet, comme vous le rappelez, j'en ai enlevé. Il y en avait beaucoup plus que ça. Et là, pour le coup, ça aurait eu l'air d'être une caricature, parce que c'était. Il y avait énormément d'incidents ou d'événements plus ou moins graves. Et donc, j'en ai enlevé. J'ai gardé des événements dramatiques. Et il se trouve que même là, avec seulement ce que j'ai gardé. On me dit que ça c'est une caricature, et vraiment que c'est douloureux pour moi, puisque toutes ces choses sont arrivées à une même personne dans la vie réelle, et cette même personne, c'est moi. Donc, c'est quand même un petit peu difficile d'avoir à argumenter sur le fait que, ben non, voilà, et je suis en même temps la preuve vivante que tout ça peut arriver à une même personne, et qu'en même temps, elle ait une vie... tout à fait non pas heureuse tout le temps, parce que personne n'a une vie heureuse constamment, mais voilà, que ça n'empêche pas de vivre, mais En tout cas, tous ces événements que je raconte, les plus anodins aux plus tragiques, font partie de l'existence d'une seule femme. C'est pas, j'ai pas pris un, parce que certains me disent oui, vous avez pris un peu tout ce qui peut arriver à des femmes différentes. Ben non. Voilà. Et d'ailleurs, je dois dire que dans les réactions des hommes de mon entourage, des amis, il y a eu beaucoup d'hommes qui m'ont dit qu'ils avaient, j'ai une expression qui m'a dit, mais moi je suis tombée de ma chaise parce que ils n'avaient aucune idée que tout ça était possible, quoi, qu'une femme pouvait vivre des événements. Il parlait pas tellement des événements tragiques parce que ça il pouvait être au courant, mais au quotidien. Par exemple, j'ai un ami qui m'a dit mais alors ah bon, les femmes ont peur dans la rue quand elles rentrent le soir, elles ont peur dans la rue. Bah je lui dis oui, c'est le quotidien d'une femme. Je veux dire, c'est même tellement c'est tellement intériorisé que c'est je lui dis, moi, je me, depuis mon adolescence, depuis que je sors seule le soir, et encore maintenant, parce que c'est un réflexe, je mets, comme je dis que la narratrice le conseille à sa fille, d'avoir son trousseau de clés, de mettre les clés entre ses doigts pour faire coup de poing américain si jamais il faut se battre contre un agresseur. Des choses qui sont quand même violentes. Et donc j'ai des amis qui me disaient mais c'est incroyable, mais alors donc les femmes ont peur dans la rue. Je dis mais la peur c'est j'ai même cette formule dans le roman, une femme menacée c'est un pléonasme, parce que heureusement il paraît qu'il y a des femmes et des jeunes filles qui ne le ressentent pas du tout. Alors ça dépend aussi où on habite, hein, c'est sûr que c'est pas la même chose d'habiter dans un village où tout le monde se connaît, encore que. Et puis d'habiter dans une ville où. Mais tout de même, cette peur liée au fait d'être une fille, une femme, c'est une réalité que beaucoup d'hommes ne connaissaient pas. Ne connaissent pas en tant qu'hommes, c'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas peur dans l'espace public, ils n'ont pas peur de sortir. Bon, cela dit, depuis, j'ai discuté aussi avec pas mal d'adolescents qui disent qu'au contraire, il y a toujours cette peur d'être pris à partie plutôt par d'autres garçons dans l'espace public, dans la rue, une espèce de rivalité. En tout cas, chez les femmes, c'est quelque chose de constant qui fait presque partie de l'éducation. De l'éducation des filles, faire attention, de quelque chose, je crois, que les garçons n'ont pas en tête. De regarder, de toujours faire attention, voir si quelqu'un nous suit, nous regarde, nous surveille, nous. Rien que ça, ça a été une découverte pour certains lecteurs, et même adultes, même âgés, ne savaient pas que les filles, subissaient ce genre de choses. C'est-à-dire pour eux, tout ce qui était de l'ordre du harcèlement, des problèmes d'abus, quels qu'ils soient, c'était de l'ordre de l'exceptionnel. C'est-à-dire que oui, bien sûr, il y a des femmes qui se font violer, bien sûr, il y a des femmes qui sont harcelées dans la rue, etc. D'ailleurs, je ne devrais pas dire qu'ils se font violer, mais qu'ils sont violés. Parce que se faire, ça, y a l'impression que on dit se faire une coiffure, ou il y a pas de participation. Donc dans la langue, il faut faire attention aussi à ce qu'on dit. Mais voilà. Donc pour eux, c'était de l'ordre de l'exceptionnel, et en fait, c'est pas si exceptionnel que ça. Et c'est aussi ce que voulait montrer ce roman, même si c'est pas un roman qui veut montrer, c'est pas un roman à message. Mais quand même, c'est un état des lieux, un panorama de la condition de fille et de femme.
Vous voulez faire une remarque sur la langue, et dans votre livre, l'étude de la langue, c'est très présent. Pourquoi vous avez décidé?
Ah ben parce que c'est mon matériau, la langue. Hein. C'est, j'ai écrit plusieurs livres sur les mots, en hommage à des mots que j'aime. C'est vraiment comme, je sais pas, comme la peinture pour un peintre ou le matériau pour un sculpteur. C'est mon matériau à moi, c'est la langue. Et pour moi, être écrivain, c'est d'abord évoluer dans ma langue maternelle. Même si je peux aimer d'autres langues, mais c'est la seule langue que je maîtrise assez pour m'y sentir bien. Et donc, je crois que beaucoup de choses passent par le langage. Hein. Et donc, quand j'écris, je n'écris pas d'abord avec des idées ou avec un sujet, un thème. Je me dis pas, je vais écrire, voilà. Si je peux me dire, je vais écrire sur filles, mais immédiatement, dès que je me dis, je vais écrire sur les filles, je vais chercher dans le dictionnaire au mot fille. Je dis fille, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, qu'est-ce que ça veut dire, quels sont les différents sens. Et je fais toujours comme ça, j'écris comme ça. J'écris à l'oreille, j'écris avec le sens des mots, mais c'est avec les mots que j'écris, c'est pas avec les idées, c'est pas avec des intentions. C'est la langue qui me fait avancer dans le roman. Je pourrais prendre beaucoup d'exemples, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeux de mots. Mais je tombe sur un mot naître, le verbe naître, et puis le naître fille au sens du verbe de la naissance, et puis naître que fille, hein, n apostrophe et le verbe être. Donc tout ça c'est parce que j'écris le mot naître, et puis moi j'entends en même temps naître que, et ça évolue, ça marche toujours comme ça. Et garçon, tout d'un coup, garçon, je me dis, mais garçon, mais garce, est-ce que ça a un rapport, etc. Et effectivement, je vais revérifier et je vois qu'autrefois, c'était, bon, garce, c'était le féminin de garçon. Tout est comme ça, c'est-à-dire que... moi, je crois que la langue, enfin, voilà, beaucoup du sens du monde et de la vie se trouve véhiculé par la langue. C'est pour ça que c'est tellement important de bien connaître les structures de la langue, la grammaire, de savoir s'exprimer à l'écrit, à l'oral. C'est tellement important. C'est vraiment, je pense, l'une des choses, et peut-être pour moi la chose la plus importante, même si on ne veut pas être écrivain, ça détermine toute la vie. Parce que c'est notre moyen de non seulement de communication, mais de lien avec autrui, avec nous-mêmes, avec tout. Tout passe par les mots, absolument tout.
Et donc, c'est le moyen pour une fille de s'en sortir à l'écriture ?
Ah ben l'écriture, le maniement de la langue, l'éloquence, l'expression, le fait de ne pas avoir peur de prendre la parole, de dire ce qu'on pense, de s'opposer éventuellement à une autre parole, de dire ses sentiments, de dire son opposition, sa colère, sa joie, c'est donc de dire pas seulement ses idées mais aussi ses émotions. Oralement, par écrit. Bon, évidemment, on est plus ou moins, selon son tempérament, plus ou moins apte à l'expression écrite ou orale. Je pense vraiment que c'est un moyen de s'en sortir. Ah, bah, c'est sûr. Sûr. C'est déterminant. Surtout pas le silence.
À propos du mouvement MeToo, ça m'a fait penser pendant que vous parliez de votre texte, de votre œuvre et de sa réception. Vous avez dit, finalement, j'ai été blessée qu'on ne me croit pas. Et il y a une chose qui m'avait frappée dans le mouvement MeToo, c'est la réaction justement des féministes qui ont répondu « on te croit ». Et là, dans ce que vous dites, c'est que finalement, quand même si les personnes vous ont dit « quand même, c'est trop », finalement, ils vous ont cru.
Oui. Oui, mais alors oui, mais dans le on te croit effectivement, c'est en réponse à à toutes ces femmes qui sont allées au commissariat et où elles ont eu l'impression que c'était elles en fait, que c'était pas elles les victimes, mais qu'elles étaient elles-mêmes accusées, et que on mettait en doute leur version des faits quand elles avaient été agressées. Et le on te croit, oui, c'est une façon de réaffirmer sa solidarité avec les femmes. Bon, cela dit, il faut pas tomber dans l'extrême inverse, parce que le on te croit, ça voudrait dire donner une caution une fois pour toutes aux femmes. Or, bon, on sait bien, c'est vrai pour les femmes comme pour les hommes, que bon, il y a des affabulateurs, il y a des gens qui mentent, il y a des gens qui s'inventent des agressions qui n'ont pas eu lieu, il y a des gens qui inventent pour se venger. Ça existe. On peut pas donc dire on te croit systématiquement à tout le monde. Ça suppose quand même, mais malgré tout, la position de départ, c'est tu dis quelque chose, il t'est arrivé quelque chose, tu l'exprimes, on te croit, on reçoit ta parole. Et ça, c'est, je pense que c'est très important. Bon, je décris dans le roman, je raconte une scène où un épisode de tragique, d'abus sexuel de la part du grand-oncle, la narratrice, assiste à un conseil de famille qui est fait uniquement de femmes, d'ailleurs, qui est composé uniquement de femmes de sa famille, où finalement, bon, on la croit, bien sûr, on la croit, mais en même temps, on lui demande de se taire. Donc, on te croit, ça n'est que la première étape. On te croit et on t'écoute. C'est ça qu'il faudrait ajouter. Hein. On t'écoute. On veut que tu parles, que tu le dises à voix haute, que tu le dises à tout le monde, que tu prennes la parole haut et fort pour dire ce qui t'est arrivé, la colère que tu as et la douleur. Et ça, bon, c'est essentiel. C'est pour ça que voilà, dire à une fille, bon, oui, c'est bien triste ce qui t'est arrivé, mais écoute, maintenant, passe à autre chose, ça ne va pas. Et ça, c'était quand même la majorité. Dans la majorité des cas, c'était ce qu'on disait aux filles. On leur disait pas, on te croit pas, mais on disait, bah, écoute, c'est banal. Là, tu l'enfouis, tu le mets dans ta poche avec ton mouchoir par-dessus et c'est tout. Donc c'est ça aussi que je trouve vraiment fort dans le mouvement MeToo, c'est que c'est un mouvement de libération de la parole. Hein, quand une dit quelque chose et toutes les autres disent « moi aussi j'ai subi ». Et ça, c'est… Et elles parlent et elles sont écoutées. Voilà, c'est ça qui est… Et donc tout ça, c'est du langage. Hein, ça passe par quelqu'un qui parle et quelqu'un qui écoute et les échanges, des dialogues… Enfin, ça me paraît fondamental, même sans parler de l'écrit, même simplement la communication orale quand elle est réelle et profonde, hein, pas pour dire juste des banalités, c'est très très important.
Et tous ces problèmes, ça fait quand même quelque chose de lourd. Pourtant, vous arrivez à faire sourire au moins le lecteur. Pourquoi vous avez choisi de faire quelque chose de...
Oui, bah écoutez, merci, parce que c'est vraiment mon but aussi. Parce que je pense que l'humour, dans la vie comme dans l'écriture, c'est certainement une défense. Une défense contre des affects qui sont trop... trop violent, on se défend par l'humour. Et moi, c'est quelque chose que je pratique beaucoup, que j'aime, et parce que aussi l'humour, il est à l'œuvre dans la langue, parce que on peut jouer avec les mots, on peut faire des jeux de mots, faire des jeux de sonorités. Il y a quelque chose de poétique aussi dans l'écriture, dès l'instant qu'on joue avec la langue. Et ça me plaît beaucoup. C'est presque enfantin. Et puis parce que aussi, c'est une explication que je donne souvent, mais elle est toujours vraie pour moi. c'est que dans les sujets graves comme ça, ou bien les sujets quand je parle de l'amour ou des sujets comme ça où il y a des événements dramatiques, le danger pour l'écrivain ou l'écrivaine que je suis, c'est de tomber dans le pathos. Voyez, dans les grands sentiments ou dans le pathos au sens d'un pathétique excessif, et un moyen de se prémunir contre cet écueil, c'est l'humour, c'est-à-dire c'est dramatique, mais à un moment donné, pas évidemment au moment où je raconte quelque chose de dramatique, encore que ça m'est arrivé, mais en tout cas juste avant ou juste après, de faire une sorte de pirouette et de retomber sur ses pieds en quelque sorte si on était par terre à cause de l'aspect tragique, de rebondir en fait et de s'alléger s'alléger par le rire, par une blague, les blagues qui sont pas toujours fines, hein, j'aime beaucoup les mauvaises blagues, ou bien des jeux de mots un peu plus subtils, voilà, mais c'est très important, j'ai jamais su si c'était vraiment Raymond Queneau, mais je crois que c'est Raymond Queneau qui disait « L'humour est fait pour décaper les grands sentiments de leur connerie. » Voilà, on reconnaît le style de Queneau, hein, qui ne faisait pas toujours dans la dentelle. Et je trouve que c'est très, très juste, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a quelque chose d'un peu bébête ou dégoulinant parfois à se lamenter sur justement les grands sentiments, que ce soit le chagrin, l'amour, voilà. Et donc c'est bien de décaper les grands sentiments effectivement par la drôlerie, le comique. C'est une autre manière de voir les choses, mais ça n'enlève rien à mon avis aux aspects qui peuvent être douloureux, au contraire, ça les renforce par contraste aussi. Mais il faut dire aussi que pour moi, en tant que lectrice depuis l'enfance, les deux choses qui m'ont toujours émerveillée dans ma lecture, c'est la capacité qu'avait l'auteur à me faire rire et à me faire pleurer. Je dois dire, il n'y a pas tant que ça, enfin ça n'est pas si fréquent en fait, mais je trouve ça extraordinaire quand même de pleurer en lisant un livre ou de rire en lisant un livre, parce que ce sont des mots, il y a personne là, il y a pas de situation, mais les mots suscitent des émotions très fortes, dont les plus fortes à mon avis c'est justement le rire et les larmes, et ça pour l'avoir vécu moi en tant que lectrice, pouvoir le faire en tant qu'écrivaine, c'est merveilleux. Donc quand vous me dites qu'il y a des moments où vous riez, vous avez ri en lisant le livre, ça me touche beaucoup, ça me fait plaisir.
C'était la deuxième partie de la rencontre de mes élèves avec Camille Lorenz, autrice de Filles, dans le cadre du prix littéraire de la région.